Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
Allez, à 9h-10, c'est l'heure de nos grands débats du matin avec notre éditorialiste Thierry Guerrier. Vos appels au 0-826-300-300, on va parler forcément de la candidature du président Macron. Et cette question qu'on vous pose, oui, c'est étonnant.
Ok, d'accord.
Cette question qu'on vous pose depuis 7h du matin.
Vous êtes surpris ou pas?
Moi? Bon, franchement, pas du tout. Non, Je crois que ça n'a étonné. Alors, surtout pas nos auditeurs, d'ailleurs. À cette question qu'on vous pose sur Twitter, je sollicite votre confiance, c'est ce qu'il a écrit dans cette lettre aux Français. Et vous, est-ce que vous avez prévu de lui accorder la vôtre? C'est un gros non à 96% avec pas mal de commentaires, je vous lis les plus lisibles, notamment Boris qui nous écrit 5 ans d'immobilisme, c'est déjà trop, ou encore IR 407 qui nous écrit, le bilan de Macron, c'est un délice de promesses non tenues et une farandole de lois inapplicables. Je pense qu'il ne lui accordera
pas. Voilà qui est dit, en tout cas, vous continuez bien sûr de voter, de réagir, et puis vous nous appelez 0826-300-300 si vous voulez prendre la parole, bien sûr, sur ce sujet-là. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio.
Voilà, et notre invité tout de suite, c'est Franck Tapiro, publicitaire et cofondateur de Daca Calab et cofondateur du mouvement citoyen Action Citoyenne Cohésion Transmission. Bonjour Franck Tapiro.
Bonjour,
et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, donc avec cette annonce finalement qui n'est pas une surprise, qu'on attendait et on a attendu jusqu'au dernier moment. Annonce donc d'Emmanuel Macron qui officialise sa candidature. Déjà donc sur la forme, ce choix qui a été fait, de publier cette lettre dans la presse régionale, dans les quotidiens régionaux, ça vous a surpris ou pas?
Pas du tout, parce que on a affaire à un président en action, non pas un candidat en action. Et le président aujourd'hui, c'est un chef de guerre, c'est un président protecteur. Et vous savez bien que toutes les prises de parole dans les médias audiovisuels, que ce soit en radio, que ce soit en télé ou sur les réseaux sociaux, doivent être totalement consacrées à la crise actuelle qui se passe en Ukraine. Donc ça aurait été totalement déplacé, et d'ailleurs je pense que les auditeurs l'auraient dit exactement de la même façon, s'il avait prise la parole dans les médias, que ce soit en radio, que ce soit en télé ou sur le réseau, de façon audiovisuelle, en vidéo, pour annoncer sa candidature. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a bien dit, il est non pas un candidat, il est un président, et le président prend le pas sur le candidat. Donc en fait, il réserve les grands médias pour la crise en Ukraine. Il a choisi l'écrit, la force de l'écrit. Ce n'est pas la première fois que ça se fait, mais ce n'était pas la même façon. Moi, j'avais travaillé à l'époque sur la lettre aux Français de François Mitterrand. C'était un petit livre. Donc c'était quelque chose qui était un peu... Mais n'oubliez pas que juste avant, on avait fait croire que François Mitterrand ne se présentait pas. J'ai même fait un slogan pour le chanteur Renaud, « Tonton, laisse pas béton ». C'était en décembre 1987, pour montrer justement qu'il y avait peut-être un doute. Et là, aujourd'hui, finalement, Emmanuel Macron est obligé de passer par l'écrit, par la presse régionale aussi. Pourquoi? Parce que c'est une presse de proximité qui touche tous les Français. Elle est très courte par rapport à tout ce qui a été fait auparavant. Elle est très courte, elle est assez efficace. Moi, je trouve qu'il y a des choses pas mal quand même dedans. J'ai bien scruté, analysé. Mais déjà sur la forme, il a eu totalement raison de le faire. Maintenant, sur le fond. Sur le fond, encore une fois, on va avoir un président qui est d'abord président avant d'être candidat. Donc, il est un président qui doit, jusqu'au bout, il l'avait dit depuis longtemps, mais il n'avait jamais pensé. Je ne veux pas que cette crise en Ukraine, il ne l'a pas voulu. Il a tout fait d'ailleurs pour l'empêcher. Qui a été au devant de Poutine, etc. Donc, finalement, il est contraint par ce contexte à une campagne un peu exceptionnelle, puisque finalement, il ne peut pas faire de meeting pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. En fera-t-il? On ne le sait pas encore. Il ne peut même pas faire de débat, puisque, encore une fois, son but, c'est de protéger la France et l'Europe par rapport à cette crise phénoménale. Mais on le voit qu'elle monte de jour en jour. Donc, c'est un cas assez inédit, c'est un cas assez unique. Mais au niveau du fond, il essaie quand même de projeter les gens.
Sur le fond, quand même, pas de choses très précises, en tout cas.
Alors, il y a quelque chose de précis. Au contraire, moi, je trouve qu'il se dégage de toute cette équipe par rapport à tout ce qui se dit des autres candidats, c'est l'optimisme. Et je peux vous dire que arriver à rester optimiste quand on est aux commandes et quand on est chef de guerre aujourd'hui en France et en Europe, c'est extrêmement différent. Et par rapport à tous les autres candidats qui sont un peu dans le déclin, des Cassandres, le rétroviseur, où on parle, cette phrase est très jolie, on parle la France de nos enfants et non pas la France de notre enfance. Oui. Donc on voit qu'il y a, malgré tout, et c'est ça, pour moi, sa plus grande force dans cet écrit, la leçon d'optimisme qu'il donne d'abord aux Français, en montrant qu'il y aura forcément un après, et que cet après, il les invite à se projeter dans ce monde de demain, à la fois pour répondre à l'écologie, il parle aussi de renouveau, la renaissance, le rebond, les trois re, ça marche plutôt pas mal. Moi, ce qui me plaît, alors c'est normal parce que j'ai monté un mouvement citoyen en septembre, c'est l'importance de la citoyenneté. Mmh. Et je veux remettre la citoyenneté comme le socle, comme le ciment de la société française, ce qui est une très très bonne parade par rapport à alors, tous les ennemis de la République, les ennemis de la laïcité, les ennemis de la République.
Franck Tapiro, juste d'un mot pour faire réagir aussi Thierry Guerrier, qui est avec nous en plateau et qui vous écoute et qui a envie de réagir à ce que vous disiez, notamment peut-être sur l'optimisme.
Oui, je suis assez d'accord avec Franck Tapiro, mais il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'au fond, d'abord, il faut se rappeler ce que je vous disais tout à l'heure à 7h35, que
dans votre
ce,
édito, ouais.
ce n'était pas la façon d'opérer.
Ils n'avaient pas prévu faire comme ça.
Que le candidat et ses équipes avaient prévu. Ils devaient se déclarer comme ça, un peu subrepticement, et puis tout d'un coup appuyer cette déclaration dans le grand meeting qui était prévu demain soir,
à Marseille.
Samedi à Marseille. Bon, tout ça a été bousculé, chamboulé, annulé.
Avec la guerre en Ukraine.
Mais ouais. L'idée, c'était que ce président devenant candidat à sa propre succession se réinvente en quelque sorte autour de la valeur de l'optimisme, de la projection en avant, de l'avenir, de l'innovation, de la création, de l'audace. Il n'a pas pu le faire et il ne peut pas le faire tel qu'il l'avait prévu. Mais paradoxalement, c'est là qu'est le paradoxe, et je crois que Franck Tapiro a raison, au fond, dans un contexte aussi difficile où l'angoisse, l'anxiété légitime de tous est là en Europe, de s'interroger sur son avenir, et donc a fortiori chez nous, eh bien, sa position, la position qu'il essaie de trouver, d'être à la fois dans l'action de manière extrêmement précise, fine, subtile, dans la relation, par exemple, qu'il doit maintenir avec l'agresseur, celui qu'ils ont qualifié de dictateur, qui est Vladimir Poutine, et en même temps de garder une volonté de se projeter loin, de construire, ce sont les mots qu'il emploie en tout cas, eh bien ça soulignera cette dimension d'optimisme. C'est là qu'est le paradoxe, et Franck Tapiro a raison, c'est tout de même ce qu'il a essayé de faire passer à travers cette lettre aux Français, je crois.
Franck Tapiro...
D'une autre façon en tout cas.
J'avais une autre question aussi, mais j'ai l'impression que vous avez déjà votre petite idée sur la question de savoir est-ce qu'il faut accepter de la part d'Emmanuel Macron de débattre ou non avec ses adversaires. Vous avez dit pour l'instant, bon, c'est pas d'actualité, mais j'ai senti que ça pouvait l'être. C'est-à-dire que pour vous, la logique, en tout cas, il aurait plutôt intérêt à le faire, à rentrer dans l'arène à un moment donné.
C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on le voit, hein, et Thierry vient de le lire, ce paradoxe joue quand même pour lui. Pourquoi ? Il y a énormément de chefs d'État dans le monde, ça paraît incroyable ce que je vais vous dire, qui rêveraient d'une telle situation pendant une campagne présidentielle.
Ouais.
Et oui, parce que pour moi, là où on voit vraiment la qualité d'un grand chef d'État, c'est le chef d'État protecteur, mais c'est quand il est chef de guerre. Et là, il est chef de guerre, mais chef de guerre, non pas parce qu'il fait la guerre, mais parce qu'il va essayer d'empêcher que cette guerre n'arrive dans les pays européens dont il est le président aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a une forme de scénarisation absolument hallucinante, absolument incroyable, il y a un contexte très particulier qui le pousse finalement à rester le plus longtemps chef de guerre. Donc je dirais que la meilleure campagne, entre guillemets, qu'il puisse faire, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, en action. Pourquoi ? Vous savez, dans une campagne présidentielle, il y a deux tours. Il y a le premier tour et le deuxième tour. Premier tour, on dit on doit rassembler son camp. Et le deuxième tour, on doit rassembler les Français. Mais lui, il est déjà dans un second tour. Il s'adresse à tous les Français. Il s'adresse
avec, nous, comme disait Thierry Guerrier dans son édito, il utilise le nous.
Oui, il s'adresse même à tous les Européens.
Beaucoup
il s'adresse même à tous les Européens. Donc il est déjà en second tour, donc je dirais qu'il n'a aucun intérêt à faire un débat de premier tour, et plutôt à se projeter déjà dans le deuxième.
Thierry Guerrier, d'un mot pour conclure sur
d'abord,
ce premier débat.
D'abord, la situation que nous vivons est inouïe et totalement inédite. Et à cet égard, c'est une difficulté pour tous. C'est-à-dire, c'est une difficulté pour lui qui ne doit pas dévoyer la réserve et la stature que la fonction impose dans ce contexte. Mmh. Et en même temps, il doit débattre. Parce que s'il n'y a pas de réel débat, il pèsera une ombre sur la suite de nos institutions, de la vie démocratique française, de son propre quinquennat s'il est réélu, et peut-être même que ça peut engendrer des surprises dans le scrutin, soit une très forte absence, soit au contraire, peut-être un choc et des reports ailleurs, parce que les Français pourraient ne pas accepter, dans ce contexte, malgré tout, que le débat leur soit retiré, en quelque sorte. Mais c'est une difficulté pour les autres candidats, parce que les candidats, eux, ont raison de vouloir aller le chercher pour qu'ils viennent débattre avec eux. Ils doivent rester sur une dimension qui ne doit pas être mesquine. C'est donc très compliqué de l'interpréter en permanence, de l'amener à la confrontation, de rentrer dans l'arène, mais ils ont raison de le faire, c'est même essentiel et pour eux, mais surtout pour le débat lui-même. Donc c'est très compliqué pour tout le monde et c'est sincèrement du jamais vu. Alors, est-ce que, évidemment, ça peut l'aider à enjamber en quelque sorte et à solder surtout vite le passé. On voit bien qu'il évoque peu son bilan, et qu'il oublie les gilets jaunes. Voilà, il essaye évidemment, toute la critique en arrogance tombe, de fait, un petit peu en ce moment, malgré tout. Et on l'a bien vu, Marine Le Pen hier soir sur France 2. elle va chercher Macron, mais elle essaye de conserver une hauteur une façon d'aborder le débat avec un peu de surplomb, elle aussi. Et c'est très compliqué. Mmh. Valérie Pécresse aussi, c'est difficile pour eux.
Thierry Garrier, vous restez avec nous face à face avec Éric Revel dans un instant. Et puis un grand merci à Franck Tapiro d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour décrypter un petit peu cette annonce justement du président de la République pour les prochaines présidentielles. Merci à vous, bonne journée.
Merci. Et puis je crois savoir effectivement qu'Éric Revel a beaucoup de choses à dire sur cette fameuse lettre aux
Français. Et puis vous aussi, sans doute.
Et vous continuez
0826 300 300 pour être à l'antenne avec nous.
Vous continuez à voter sur Twitter également. Sud Radio, il est 8h59.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez les 9h07 avant de retrouver nos grands débats du matin. À partir de 9h30, dans La Vérité en Face, on va se poser cette question, comment s'est construite la marque Macron? Parce qu'il y a bien une marque qui a d'ailleurs évolué dans le temps.
C'est du marketing, peut-être. C'est ça,
En tout cas, notre invitée Corinne Laïc, journaliste politique et l'opinion et co-auteur du livre La Nuit tombe deux fois aux éditions Fayard, nous en dira plus. Mais tout
beaucoup
de suite,
de choses à apprendre justement sur Emmanuel Macron à partir de 9h30.
Et on en parle tout de suite de Macron avec Revel en campagne, c'est bien sûr.
Sud Radio présidentielle 2022.
Bonjour Éric Revel.
Bonjour Laurence.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Éric. Nous revenons effectivement avec vous sur cette lettre aux Français dans laquelle Emmanuel Macron se déclare donc officiellement candidat. Quelle analyse vous en faites ?
Bon, alors la forme d'abord, on va commencer, elle ressemble, vous l'avez dit ce matin avec Thierry Garrier et Franck Tapiro, elle ressemble bien sûr à celle de François Mitterrand en 1988. Le fond, bon, si on décortique, il y a deux parties, il y a la partie bilan et puis il y a la partie projet. Alors sur le bilan, le chef de l'État dit qu'il a agi, même s'il a été un président de crise, il a agi quand on regarde dans le détail, petite réforme sur le travail, petite réforme à la SNCF. Petite réforme sur l'éducation, pas de réforme sur les retraites. Il dit qu'il a investi dans les hôpitaux, mais on a supprimé des milliers de lits pendant la crise sanitaire. Il dit qu'il a réduit les déficits, mais quand on voit l'envolée du déficit public et du déficit commercial, on peut au moins dire que c'est une contre-vérité. Alors il concède qu'il n'a pas tout réussi, ça c'est sans doute pour pas qu'on lui fasse un procès en arrogance. Côté projet, il veut, c'est l'enjeu, il le dit, il l'écrit, bâtir la France de nos enfants et pas de ressasser la France de notre enfance. Ça, c'est pour les nostalgiques, les Éric Zemmour ou les Marine Le Pen. Et puis, il a ce slogan qui sera peut-être d'ailleurs le slogan de sa campagne. « Je suis candidat pour inventer avec vous », dit-il. Et puis, il suit un catalogue de promesses, transition écologique, lutte contre les inégalités, le grand âge à domicile, le recul des déserts médicaux, investir dans la justice, dans la police. Bon, c'est un catalogue à la Prévert qui n'est pas chiffré. C'est pour la lettre. Alors, si on compare par rapport à 88, évidemment, la France des années 90 n'a rien à voir avec celle des années 2020, celle qu'on vit aujourd'hui, le contexte de guerre, bien sûr. Je vous rappelle que depuis décembre, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé 13 fois au téléphone, 1h30 d'entretien hier avec le président russe qui ne laisse rien augurer de bon sur ses intentions, sur les intentions de Poutine de mettre la main sur toute l'Ukraine. Et puis la France des années 2020, ce sont aussi, il faut pas l'oublier, de lourdes questions pour les Français sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur la santé, sur la sécurité, sur les retraites et j'en oublie. Alors qu'a fait Emmanuel Macron pendant ces 5 ans? Il dira qu'il a été un président de crise, gilet jaune, même s'il n'en parle pas, crise sanitaire, crise guerrière aujourd'hui, mais à 37 jours du premier tour de la présidentielle, qui peut imaginer que le bilan de ce quinquennat sera réellement discuté? Qui peut croire d'ailleurs, Benjamin, que tous les candidats, y compris Emmanuel Macron, débattront réellement projet contre projet, le temps qu'il reste, 37 jours je vous le disais, puis le contexte d'insécurité internationale ne le permettront sans doute pas.
Bon, Emmanuel Macron, servi par les circonstances internationales avec cette guerre en Ukraine, mais ça, Éric, il ne l'a pas choisi.
Non, vous avez raison. Emmanuel Macron n'est évidemment pas responsable de la guerre en Ukraine et de la folle décision de Vladimir Poutine. Mais depuis son adresse aux Français à la télé il y a deux jours, solennelle et grave, Macron a changé de costume, il s'habille différemment, il a troqué le costume de président de la République pour celui de chef des armées. Alors ce costume et sa posture internationale lui permettront sans doute de ne pas descendre dans l'arène de la politique française, et c'est un danger pour le débat démocratique. Descendre dans l'arène lorsqu'on est en guerre, ce serait peut-être décalé, mais évidemment ça tombe à pic, Benjamin, comme il tombe à pic d'ailleurs que la veille de sa déclaration officielle avec cette lettre à la PQR, à la presse quotidienne régionale, aux déclarations officielles de sa candidature, bah, comme par hasard, son premier ministre, Jean Castex, annonce, lui, la fin prochaine du masque et du pass vaccinal. Passe-passe politique, surtout, qui sert, évidemment, l'entrée en campagne de Macron pour un second mandat.
Et avec cette non-campagne qui se profile pour les 37 derniers jours avant le premier tour, les Français se posent beaucoup de questions, quand même, non ?
Bah oui, oui. Alors on peut essayer d'en imaginer quelques-unes. Par exemple, les Français se satisferont-ils d'une campagne électorale tronquée, ou bien trouveront-ils normal de faire bloc derrière le chef de l'État devenu chef des armées et en quelque sorte chef de guerre vu le contexte international? Les sondages semblent lui donner raison. Vous en citiez un tout à l'heure. Il y en a un autre ce matin. Sondage BVA Orange +5 points pour Emmanuel Macron à 29%. Mais la démocratie française, je le pense vraiment, est en grande souffrance. Les tensions, la communautarisation de notre société, la crise sociale, l'insécurité, l'immigration ne sont pas des sujets majeurs qui vont disparaître après le second tour de l'élection présidentielle en avril. Pas plus qu'il n'y a d'argent magique, il n'y a de baguette magique politique, fut-elle tenue du bout des doigts par Emmanuel Macron.
Eh bien, merci beaucoup. Éric Revel, et ça fait réagir Thierry Guerrier qui est avec nous par rapport à ce que vous disiez à l'instant, Thierry.
Oui, moi je voudrais saluer l'esprit de prudence d'Éric Revel ce matin. Nous sommes souvent en opposition, mais je suis assez proche de la description que Éric vient de faire de ce qui ressort de cette déclaration de candidature. Je pense qu'il y a une exigence de la part des Français, c'est que la campagne soit à la hauteur de la situation. Et Éric a raison de citer ces enquêtes qui sont des photographies de l'état de l'opinion. Ouais. Il y a un point très important, vous savez, Frédéric Déby est souvent invité à ce micro, le patron de l'IFOP. Il nous dit quoi ce matin? Il nous dit qu'il y a un effet drapeau, c'est son adjectif, un effet drapeau favorable au président, mais surtout qu'il y a une exigence des Français. Ceux qui ne seront pas à la hauteur vont, eux, risquent d'être les victimes d'un effet stop. Stop à ce type de campagne, stop à votre propre candidature, et de ne plus aller sur eux et se déporter peut-être en partie sur le président. Ce que dit Éric est fondé sur le fait, de façon assez prudente, dans cette description d'une situation où le président, mais aussi les autres candidats, je le disais tout à l'heure, marchent tous sur des œufs, si j'ose dire, du point de vue de la campagne en tout cas. Moi, je dirais deux choses. D'abord, je voudrais rappeler à Éric que dans la Ve République, président de la République, c'est égal chef des armées. Ou plutôt, président de la République, c'est de fait chef des armées. Donc, il n'a pas troqué l'habit, il l'a de toute façon, de fait. En revanche, je voudrais prendre un pari. Peut-être que je vais me tromper. Allez-y. Et ce serait une erreur, je pense. Je crois qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, si les circonstances n'imposent pas le contraire, évidemment, parce qu'on serait entré dans une autre dimension de l'agression, je pense qu'Emmanuel Macron rentrera davantage encore dans l'arène. Il l'a fait hier soir, avec cette façon d'opérer qu'est la lettre. Il le fera davantage, je pense, si c'est nécessaire. Il sait qu'il ne peut pas laisser peser sur les 5 ans qui suivent, pour nos institutions en général et pour son mandat, s'il est réélu en particulier, une ombre permanente d'illégitimité s'il n'était pas entré dans le débat. J'espère en tout cas qu'il raisonnera comme ça.
C'est un pari qui est pris. Vous me direz, vous pariez quoi, hein? C'est important de préciser avant le pari.
Le pari qu'il entre davantage dans l'arène, voire qu'il débatte.
Ah oui, alors ça, j'ai bien compris.
Un débat.
Vous avez raison, vous m'avez poussé dans mes retranchements.
J'ai bien compris. Voilà.
Bravo.
Éric
est peut-être pas d'accord.
Éric Revel, par rapport à ce que disait à l'instant justement Thierry Guerrier sur ce pari, voilà, Emmanuel Macron aurait peut-être tout intérêt, peut-être qu'il le fera, c'est ce qu'il parie Thierry Guerrier, à débattre un jour, en tout cas avant ce premier tour avec ses adversaires. Vous pensez qu'il le fera? Qu'il a intérêt à le faire?
C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il le fasse, parce qu'il est porté par des sondages extrêmement flatteurs, quand même, hein. C'est absolument hallucinant. Je vous citais le BVA Orange. +5 à 29%. Mais je dirais que Emmanuel Macron vient d'inventer un nouvel édifice politique. C'est le viaduc. C'est un viaduc politique, Emmanuel Macron. Parce que non seulement il enjambe, comme le disait Thierry Guerrier tout à l'heure, mais je partage complètement l'analyse de Franck Tapiro. C'est-à-dire que le chef de l'État fait un pari fou, parce qu'il est sûr de lui-même, comme il a souvent été pendant ce quinquennat, et encore plus avec les sondages qui lui sont favorables. Le pari fou qu'il fait, c'est qu'habituellement, c'est vrai, le premier tour d'une élection présidentielle, on rassemble son camp, et puis au deuxième tour, on rassemble les Français. Et bien là, le viaduc Macron enjambe le premier tour en faisant le pari qu'il rassemble déjà tous les Français derrière son panache blanc de chef de guerre, de chef des armées. Alors c'est un pari osé, mais quand on a près de 7, 8, 9 points d'avance sur ses autres adversaires politiques, on peut sans doute faire ce pari, mais attention, 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 l'élection c'est pour le mois d'avril, il peut se passer encore plein de choses d'ici là, mais c'est assez extraordinaire quand même que pour la première fois, mais les circonstances sont exceptionnelles, de voir un candidat à sa propre réélection qui fait le pari de rassembler déjà les Français comme si le premier tour était joué.
Et on va continuer alors sur un autre débat, cette fois-ci dans un instant avec vous Thierry Guerrier et Éric Revel, vous restez avec nous. On va parler cette fois-ci bien de l'international, on l'a évoqué bien sûr ici en filigrane sur cette situation en Ukraine avec l'information de la nuit, cette centrale nucléaire qui a été touchée, bombardée en Ukraine par les Russes qui se seraient emparés justement de cette centrale la plus grande, la plus grosse d'Europe. On en parle dans un instant, la suite du débat avec vous deux bien sûr.
Vous deux et puis tous ceux qui nous écoutent aussi. Vous mais n'hésitez pas à intervenir au 0826 300 300, on attend vos commentaires. Sud Radio, il est 9h17.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
Merci à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio, il est 9h20, à suivre dans une dizaine de minutes dans La Vérité en Face, un essai très très intéressant signé Corinne Lahy, qui est journaliste politique à l'opinion, ça s'appelle La nuit tombe deux fois aux éditions Fayard, c'est sur le président Macron qui, vous savez, est un petit dormeur, d'où cette notion de nuit qui tombe deux fois, et vous allez le voir avec elle, sa prise de conscience des sujets régaliens a pris du temps, lui qui croyait surtout et avant tout en l'économie.
Non, on verra ça.
Mais tout de suite, on poursuit nos grands débats avec Éric Revel, bien sûr, et Thierry Guerrier. Et vos appels au 0826-300-300. Et on revient, bien sûr, sur cette information de la nuit, cet événement, les frappes de l'armée russe contre la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe dans le centre de l'Ukraine.
Alors, précisons que d'après les autorités, déjà, le feu a été éteint, qu'il n'y aurait pas, en tout cas, que la sûreté en termes de radiation serait acquise, qu'il n'y aurait pas de radiation plus élevée qui se serait dégagée de cette centrale, puisque c'est un bâtiment administratif qui a été ciblé ici. Les Russes, d'ailleurs, se seraient emparés, a priori, de cette centrale. Ce sont les dernières informations qu'on peut avoir à l'heure qu'il est. Déjà, Thierry Guerrier, à quoi joue Poutine, finalement, quand il décide comme ça? Ça paraît complètement affolant de tirer sur cette centrale nucléaire.
Alors, s'il y a maîtrise, les informations que donnent l'AIEA et l'Agence internationale et l'autorité de sûreté nucléaire ukrainienne précisent que les 4 réacteurs ont été arrêtés. Le processus est maîrisé et arrêté, voilà. Oui. Mais alors, à quoi joue Poutine? Je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, bien entendu. Ce qu'on peut redouter, c'est deux choses. D'abord, à très court terme, là, immédiatement, c'est toujours cette idée de terroriser. C'est l'emploi du symbole du nucléaire comme menace, comme arme, et donc à très court terme, même si évidemment ils maîtrisent et qu'ils n'ont peut-être pas l'intention, les faits semblent le démontrer,
a priori,
détruire, si vous voulez, ce qui serait ravageur, évidemment pour l'ouest de l'Europe, mais pour l'est aussi de l'Europe, et de la Russie elle-même, bien entendu. Mais l'idée, c'est nous méduser, nous atterrer, nous terrifier avec
du terrorisme,
avec
entre
cette
guillemets,
idée. C'est cette idée que, entre le débat sur la bombe atomique, missiles de croisière ou missiles tactiques, de bombes tactiques, et puis le nucléaire civil, là, il y a une dimension. Et puis, il y a du long terme. C'est-à-dire qu'on peut peut-être se mettre dans la situation qui serait qu'une fois conquis l'Ukraine, ou conquise, qu'il y ait une zone de tampon ou pas, qu'il ait conquis ou ait installé un pouvoir à sa botte, Vladimir Poutine va peut-être calmer le jeu et ramener à une vie, je dirais, plus classique, plus normale, business as usual, ou dans lequel on retrouvera, vous savez, Poutine, c'est le temps long, c'est le long terme. C'est un stratège, un joueur d'échecs, mais aussi du long terme. Et donc, il peut s'inscrire dans un contexte qui, à nouveau, doit permettre le commerce avec l'achat, notamment, du gaz russe. Et favoriser ceux qui, dans nos pays, sont favorables à des centrales au gaz plutôt qu'au nucléaire civil.
Et comme décrédibiliser le nucléaire,
discréditer.
Finalement.
Le nucléaire, c'est mauvais. Parce que le nucléaire, c'est une arme. Ça, c'est le principal argument. Alors alors que tous les arguments techniques prouvent que c'est une source d'énergie pilotable, puissante, qui répond aux besoins de notre époque et notamment d'une grande consommation électrique. L'argument aussi bien de Jean-Luc Mélenchon que des écolos verts, c'est de considérer que c'est une potentielle arme, donc que c'est dangereux. Et donc, ça vient nourrir ce discours avec une part de réalité. Très clair. Et donc, il y a ces deux aspects, je crois, dans la stratégie de Vladimir Poutine.
Éric Revel, Vladimir Poutine, stratège économique sur long terme ou dictateur fou, comment vous réagissez justement à ce que vient d'expliquer Thierry Guerrier ?
Alors, plusieurs choses. Ouais. D'abord, espérons évidemment que tout soit contenu, qu'il n'y ait pas d'émanation radioactive avec cette centrale la plus importante d'Europe. J'ai confiance dans nos autorités de contrôle, mais je rappelle quand même que le nuage de Tchernobyl devait s'arrêter
vous
à la frontière. Et qu'évidemment, il ne s'est jamais arrêté. Donc,
c'est pour
soyons
ça qu'on croise encore les
prudents,
doigts, bien sûr.
Optimistes, évidemment, il faut l'être en ce moment, mais voilà, je me rappelle quand même de tout cela. Maintenant, je voudrais aussi dire une chose, j'ai vu une vidéo de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, expliquant que les réacteurs de cette centrale avaient été bombardés et touchés. C'est une fake news. Ou alors la vidéo n'existe pas, ou alors ce que raconte le président ukrainien est faux, ou il était mal renseigné. Parce qu'en réalité, seul a été visé un laboratoire et un centre de recherche. C'est déjà pas mal, vous me direz. Ça sème suffisamment la terreur comme ça. Mais voilà, il faut être extrêmement précis. Alors peut-être que le président ukrainien, dans sa vidéo, il était mal informé, ou qu'il a voulu grossir un peu ce qui se passait. Mais là aussi, il faut faire attention, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de manipulation de l'information et de propagande, et une guerre se gagne aussi avec la communication. Et je ne voudrais pas avoir à constater dans quelques jours que le président Zelensky se livre à ce genre, lui aussi, de manipulation. Maintenant, sur la centrale nucléaire, il y a aussi une raison très simple, c'est qu'une centrale nucléaire, ça donne de l'énergie à ceux qui vivent sur place, aux habitants. Or, vous êtes encore en plein hiver en Ukraine, vous avez besoin de vous chauffer, vous avez besoin le soir d'allumer la lumière. Si vous n'avez plus d'énergie en Ukraine et qu'après Tchernobyl, justement, cette centrale passe aux mains des Russes, alors c'est aussi une façon de jeter encore plus d'Ukrainiens sur les routes de l'immigration en direction de la Pologne, si on leur coupe les sources d'énergie. Et ça aussi, ça fait partie malheureusement de la guerre, c'est-à-dire rendre invivable pour les populations sur place encore un peu plus les bombardements, mais aussi le manque d'énergie. Et évidemment, ça peut aussi précipiter une sorte de victoire de Poutine.
Ça peut accélérer effectivement l'issue de cette guerre. Merci Éric Revel. On va du côté du standard.
Oui, Laurence. Si vous voulez, il y a pas mal d'appels, si vous voulez réagir bien sûr à l'actualité de votre choix, l'Ukraine ou autre. On a Isabelle qui nous appelle au 0826 300 300, Isabelle qui nous appelle de l'Aude. Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez parler de quoi ce matin ?
Alors en fait, je voulais parler des listes électorales. En fait, dans une commune de l'Aude, mon fils s'était inscrit, vous savez, par Internet sur les listes électorales. On avait reçu un mail comme quoi il était bien inscrit, mais qu'il devait attendre une réponse de la mairie pour être sûr qu'il était bien inscrit. Mmh. En fait, n'ayant pas cette réponse, il est allé à la mairie de son village. Et en fait, la dame lui a dit, la personne qui s'occupe des listes électorales lui a dit qu'il n'était pas inscrit parce qu'il y avait un problème de logiciel. Donc il s'est inscrit à la mairie lui-même.
Mais c'était jusqu'à aujourd'hui. C'est jusqu'à aujourd'hui pour la mairie.
Il y est allé donc la semaine dernière pour essayer de s'inscrire dans cette mairie. Mais seulement la dame lui a dit que c'était pas sûr du tout qu'il y vote parce qu'ils sont une quarantaine de personnes à être inscrits. Mais comme le logiciel est en panne et qu'elle n'arrive pas à le faire réparer, eh bien les gens vont peut-être pas pouvoir voter. Donc je trouve qu'à l'heure du tout Internet, c'est quand même assez extraordinaire de priver les gens d'un droit élémentaire qui est celui du vote.
D'ailleurs, Isabelle, alors je fais part d'une petite anecdote personnelle. Moi, en parlant de logiciel, c'était récemment sur le passeport. J'ai attendu 2 semaines, je crois, que le logiciel avait planté, effectivement.
Trop tard pour le
voyage.
Pour
moi, pour moi, pour le coup, c'était plus pour avoir une carte d'identité. J'avais pas c'était pas un problème, mais c'est vrai que ça pose question. Thierry Guerrier.
Oui, moi je comprends bien Isabelle, elle a raison. Il y a des recours. il faut saisir la préfecture, dépasser le seul stade de la commune elle-même concernée, la préfecture ou le tribunal administratif. Très très vite, qui lanceront une procédure telle qu'il y aura une trace et qu'il faudra de fait inscrire sur les listes, en tout cas prendre acte du fait qu'il y a eu une demande à temps de son fils, lequel à ce moment-là aura un élément pour prouver le jour du vote qu'il doit être inscrit sur les listes.
Vous avez entendu Isabelle ?
Voilà les conseils de Thierry Garnier.
Oui, d'accord. Oui, parce que c'est quand même incroyable. En plus, on nous dit que ça va être facile, etc. Donc, on le fait vite par Internet parce que souvent, on travaille et que les horaires des mairies ne sont pas adaptables avec le travail. Ouais. Et que là, bah, du coup, il ne va pas pouvoir voter. Ou alors, oui, effectivement, il faut faire d'autres... Enfin, bon, c'est vrai que c'est quand même...
C'est gênant, vous avez raison, bien sûr.
Bah, oui, c'est forcément compliqué, surtout quand il y a urgence à ce moment-là.
Surtout qu'il n'est pas tout seul, parce que c'est des petites communes et 40 personnes sur une petite commune.
En tout cas, merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Bon, on espère que Thierry Garnier vous a aidé. Et puis, bonne journée à vous aussi.
Oui.
En espérant que votre fils puisse voter.
Bah, quand même.
C'est ça le plus important aussi.
Merci, Eric Revel.
Eric Revel qui était avec nous ce matin.
Merci pour toute cette semaine
de débat avec vous. Et puis, merci également Thierry Garnier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée à vous deux.
Bon week-end à tous.
Allez, à suivre dans quelques instants dans La Vérité en Face. On va parler de la marque Macron. Est-ce qu'il y a une marque ou pas? On a parlé là tout à l'heure.
Elle est déposée ou pas cette marque Macron?
Je sais pas, mais là, on a parlé avec Eric Revel et Thierry Garnier des différents costumes du président Macron. Oui, on va voir en quoi ils ont évolué. Également avec le temps, avec notre invité.
Alors, ce n'est pas les marques du costume.
Soyons attention. On en parle avec Corinne Lahic, elle est journaliste politique à l'Opinion et co-auteure de ce livre, La nuit tombe deux fois, aux éditions Fayard. A tout de suite, sur Radio, il est pile 9h30.